Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. « Pourquoi nous dormons » est un ouvrage de vulgarisation scientifique dans lequel le neuroscientifique Matthew R. Walker examine le sommeil et le rêve à partir de la chronobiologie, des neurosciences et de la recherche médicale. Paru d'abord en anglais sous le titre « Why We Sleep », le livre conteste l'idée selon laquelle dormir serait une période passive ou négociable. Son propos central est que le sommeil constitue une activité biologique indispensable, participant à la consolidation des apprentissages, à la régulation émotionnelle, au fonctionnement immunitaire et à l'équilibre métabolique. Walker décrit les mécanismes qui organisent les nuits, notamment l'horloge circadienne et l'alternance entre sommeil non paradoxal et sommeil paradoxal. Il relie ensuite ces mécanismes aux conséquences concrètes des nuits écourtées, tant pour les individus que pour les organisations et la sécurité collective. L'ambition est double: rendre intelligibles des résultats scientifiques souvent dispersés et réhabiliter le sommeil comme déterminant majeur de santé. Le livre s'adresse donc autant aux lecteurs curieux des sciences du cerveau qu'à celui qui souhaite comprendre les effets réels de ses habitudes nocturnes. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'horloge circadienne et la pression de sommeil organisent le moment où nous dormons. Walker présente le sommeil comme le produit de deux forces biologiques complémentaires. La première est le rythme circadien, une horloge interne approximativement quotidienne qui règle les périodes de vigilance et de somnolence en fonction, entre autres, de l'exposition à la lumière. La seconde est la pression de sommeil qui augmente progressivement avec le temps passé éveillé et diminue durant la nuit. Cette articulation explique pourquoi la fatigue ne se résume pas à un manque de volonté et pourquoi l'heure à laquelle on dort compte autant que la durée du sommeil. Le livre insiste aussi sur les chronotypes. Certaines personnes ont spontanément un rythme plus matinal, d'autres plus tardif. Les horaires sociaux uniformes peuvent donc entrer en conflit avec une biologie individuelle, particulièrement chez les adolescents dont le rythme tend à se décaler. La caféine, l'éclairage artificiel nocturne, les décalages horaires et le travail de nuit perturbent ces régulateurs. L'intérêt de cette analyse est de déplacer la question des bonnes habitudes au-delà de simples conseils. Préserver le sommeil suppose de tenir compte des signaux temporels qui synchronisent le cerveau et le corps. Une nuit correcte dépend ainsi d'une régularité compatible avec les mécanismes physiologiques, plutôt que d'une récupération improvisée en fin de semaine. Deuxièmement, le sommeil non paradoxal consolide les souvenirs et soutient l'apprentissage. Une thèse majeure du livre est que le sommeil ne ferme pas l'apprentissage commencé pendant la journée, il le poursuit. Walker décrit en particulier le rôle du sommeil non paradoxal profond dans la stabilisation de certains souvenirs. Les informations récemment acquises sont d'abord traitées par des systèmes cérébraux temporaires. Puis, leur réactivation nocturne contribuerait à leur intégration dans des réseaux corticaux plus durables. Cette perspective donne une fonction précise au sommeil qui suit une séance d'étude ou de formation. Il aide à transformer une acquisition fragile en connaissances davantage accessibles ultérieurement. L'auteur relie également le sommeil à la préparation du cerveau avant l'apprentissage. Une dette de sommeil peut diminuer la capacité à encoder de nouvelles informations, ce qui rend inefficace la stratégie consistant à sacrifier systématiquement la nuit pour réviser plus longtemps. Le propos ne réduit pas la réussite scolaire ou professionnelle au sommeil, car la pratique, l'attention et les méthodes de travail restent déterminantes. Il établit toutefois que l'apprentissage repose sur une séquence complète: exposition à l'information, répétition éventuelle, puis sommeil suffisant. Cette idée distingue le livre des discours qui valorisent la disponibilité permanente et la prolongation indéfinie du temps de travail au détriment de la récupération cognitive. Troisièmement, le sommeil paradoxal éclaire les liens entre rêve, émotion et créativité. Walker consacre une part importante de son analyse au sommeil paradoxal. Période où l'activité cérébrale présente certaines caractéristiques proches de l'éveil, tandis que le corps demeure largement inhibé sur le plan moteur. C'est et durant cette phase que les rêves vifs sont fréquemment rapportés, même si l'activité onirique ne lui est pas exclusivement réservée. Le livre avance que cette forme de sommeil participe au traitement émotionnel des expériences vécues. Le cerveau peut réactiver des souvenirs chargés des affects dans un contexte neurochimique différent de celui de l'état d'éveil, ce qui aiderait à réduire progressivement leur intensité émotionnelle sans effacer nécessairement leur contenu. Walker associe aussi le rêve à des recombinaisons plus libres entre éléments de mémoire, susceptibles de favoriser des rapprochements inhabituels et donc certaines formes de résolution créative de problèmes. Il ne présente pas les rêves comme des messages codés dont chaque image exigerait une interprétation symbolique. Son approche les envisage plutôt comme l'expression d'un travail cérébral nocturne lié à la mémoire, aux émotions et à la simulation mentale. Cette position replace le rêve dans une continuité biologique avec le reste du sommeil et évite de l'isoler comme un phénomène mystérieux ou purement anecdotique. Quatrièmement, la restriction chronique du sommeil affecte la santé et la vigilance quotidienne. Le livre examine les effets cumulés d'un sommeil insuffisant ou irrégulier. Walker souligne que la privation ne produit pas seulement une sensation de fatigue, elle altère l'attention soutenue, ralentit les temps de réaction, dégrade certains jugements et peut réduire la conscience même que l'on a de ses propres déficits. Cette dernière dimension est importante, car une personne habituée à dormir trop peu peut croire s'être adaptée alors que sa performance reste diminuée. L'auteur met également en relation le manque de sommeil avec des perturbations des systèmes qui régulent l'immunité, le métabolisme, l'humeur et la santé cardiovasculaire. Ces liens doivent être compris comme des résultats de recherches souvent multifactorielles, non comme l'attribution automatique de toute maladie à une mauvaise nuit. L'argument solide du livre est plutôt qu'un sommeil chroniquement écourté constitue un facteur de risque évitable et qu'il interagit avec d'autres comportements de santé. Walker élargit enfin l'analyse à la sécurité somnolence au volant, erreurs de décision et accidents professionnels montrent que la fatigue dépasse la sphère privée. Le sommeil devient alors une question de prévention collective, au même titre que les conditions de travail. L'organisation des horaires et la limitation des situations où une vigilance élevée est indispensable. En dernier lieu, réformer les habitudes et les institutions plutôt que chercher une solution médicamenteuse simple dans sa dernière orientation. Walker critique une culture qui traite le sommeil comme un temps perdu, puis cherche à compenser les conséquences de cette privation par des stimulants, des somnifères ou des performances forcées. Il distingue le sommeil naturel de la sédation médicamenteuse. S'endormir sous l'effet d'une substance ne garantit pas nécessairement la même architecture nocturne ni les mêmes bénéfices réparateurs. Sans nier que certains traitements puissent avoir une place clinique sous supervision médicale, le livre met l'accent sur les facteurs comportementaux et environnementaux. La régularité des heures de lever et de coucher, la réduction de la lumière intense le soir, une chambre fraîche et sombre, la limitation des excitants tardifs et la préservation d'un temps de sommeil suffisant forment le socle de cette approche. Walker ne limite toutefois pas la responsabilité à l'individu. Il interroge les horaires scolaires précoces, les exigences professionnelles de disponibilité continue et la banalisation du travail de nuit. Cette dimension sociale est essentielle. Conseiller de mieux dormir a peu de portée si les institutions récompensent systématiquement la privation de sommeil. Le livre défend donc une prévention qui combine hygiène de sommeil, information scientifique et changement dans l'organisation collective des rythmes de vie. En conclusion, Pourquoi nous dormons conviendra aux lecteurs qui veulent une synthèse ambitieuse sur la science du sommeil sans se limiter à une liste d'astuces de bien-être. Les étudiants, les parents, les professionnels confrontés à des horaires exigeants et les personnes curieuses des liens entre cerveau, santé et comportement y trouveront des repères utiles pour interpréter la fatigue, les difficultés de concentration ou l'irrégularité des rythmes. Il peut aussi nourrir une réflexion plus large chez les responsables d'équipe, les enseignants ou les décideurs, car Walker montre que le sommeil concerne l'apprentissage, la sécurité et l'organisation sociale autant que le confort personnel. Sa principale contribution est d'articuler des domaines souvent séparés: mécanismes circadiens, mémoire, rêve, émotion, immunité, métabolisme et politique de prévention. Cette ampleur le distingue des guides centrés exclusivement sur l'insomnie ou sur des routines du soir. Le lecteur doit néanmoins conserver une lecture critique des résultats scientifiques, surtout lorsqu'ils sont traduits en recommandations générales, les besoins de sommeil. Les troubles médicaux et les réponses aux changements d'habitude varient selon les personnes. Pour une insomnie persistante, une somnolence inhabituelle ou la suspicion d'un trouble respiratoire nocturne, l'ouvrage ne remplace pas une évaluation clinique. Sa valeur réside plutôt dans le changement de cadre qu'il propose. Le sommeil yin est ni une faiblesse ni un luxe, mais une fonction active qui mérite d'être protégée avec autant de sérieux que l'alimentation, l'activité physique et la santé mentale. Si vous souhaitez soutenir Matthew R. Walker, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.